commence ce journal avec une étude publiée dans la revue Science. La biorésistance aux antibiotiques augmente chez les animaux d'élevage destinés à l'alimentation.
Et à force d'être exposés aux antibiotiques, les bactéries développent des mécanismes d'adaptation et deviennent multirésistantes. Depuis des années, la communauté scientifique recommande de réduire ces traitements dans les élevages. Sauf que la demande de viande grimpe partout, que l'utilisation des antibiotiques est exacerbée et surtout peu réglementée. Cette étude, menée par une équipe internationale, fait le point sur 20 ans de tendance. C'est une méta-analyse qui cartographie toutes les données disponibles à ce sujet. 901 enquêtes du monde entier de 2000 à 2018. En Chine, en Inde, au Brésil, au Mexique, partout, les taux de résistance aux antimicrobiens chez les animaux d'élevage augmentent. Et ils pourraient encore augmenter de manière exponentielle. L'étude appelle à mettre en place urgemment des mesures sanitaires à échelle mondiale. Pierre Tadevin est professeur en maladies infectieuses au CHU de Rennes et président de la Société de pathologie infectieuse de langue française.
L'étude dans Science, c'est une étude mondiale. Et dans cette population animale-là, si on regarde par exemple les poulets, la proportion d'antibiotiques dont la résistance est supérieure à 50% est passée de 15% à 41% entre 2000 et 2018. Donc ça a quasiment triplé. C'est un peu moins spectaculaire chez les cochons, mais c'est quand même passé de 13% à 34% et chez les bovins de 12% à 23%. Mais c'est vraiment une tendance qu'on retrouve globalement. Alors il y a quelque chose qui protège un petit peu les humains. Il y a des antibiotiques qui sont vraiment pas utilisés dans les élevages, qui sont notamment les quinolones et les céphalosporines de troisième génération, quasiment pas utilisés, parce qu'on essaye de les réserver à l'usage humain. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont quand même communs aux deux. Il y a par exemple les cyclines, il y a les pénicillines. Et ça, c'est problématique parce qu'effectivement, l'usage dans les élevages animaux augmente les résistances qu'on retrouve, y compris dans les viandes de consommation. C'est le concept One Health qui est quelque chose qui a émergé il y a quelques années, mais qui est une évidence, c'est qu'on partage tout sur la planète et on partage aussi les résistances aux antibiotiques parce qu'on partage les bactéries qui portent ces gènes de résistance. On partage les résistances bon, pour les animaux et les humains et l'environnement, mais aussi d'une frontière à l'autre. Ça ne s'arrête pas aux frontières, les résistances. Donc une fois qu'il y aura vraiment une extension de ces points chauds sur la planète, tout le monde entier sera concerné.
Et on passe au bref du jour. Selon un rapport publié hier par l'Organisation mondiale de la santé, 5 milliards de personnes n'auront pas accès aux soins de santé d'ici 2030.
Et 5 milliards de personnes en 2030, ça veut dire plus de la moitié de la population mondiale. Selon ce rapport, les investissements pour la santé sont insuffisants dans la plupart des pays et sont même en train de reculer depuis quelques années. Il faudrait investir 200 milliards de dollars par an dans la santé pour sauver 60 millions de vies. L'OMS encourage les pays à investir au moins 1% de plus de leur PIB aux soins de santé primaire. Il appelle également à renforcer la couverture sanitaire universelle. Partout dans le monde, le coût pour les soins augmente et participe à l'appauvrissement des populations.
La NASA a signé hier un contrat de 3 milliards de dollars avec Lockheed Martin pour construire les prochaines capsules Orion.
Les capsules Orion, ce sont les prochaines navettes taxi pour la Lune, pour les missions Artemis. Elles devraient transporter les astronautes américains, dont la première femme, d'ici 2024. Elles sont assez proches à des capsules Apollo, mais en plus spacieuses, elles peuvent transporter 4 personnes et ont une autonomie de 3 semaines. Les premiers vols inhabités sont prévus pour 2020.
Et selon un nouveau scénario des chercheurs de la NASA, Vénus aurait pu être une planète habitable pendant 3 milliards d'années.
Oui, une planète avec des océans, une température ambiante de 20 à 50 degrés. C'est difficile d'imaginer ça quand on sait que sur Vénus, il fait 470 degrés. Ce nouveau modèle se base sur l'évolution du rayonnement solaire et sur des modélisations climatiques de la Terre transposées à Vénus. Selon ce modèle, il y a 4,2 milliards d'années, son atmosphère se serait refroidie, ce qui aurait permis l'apparition d'un climat stable. Puis, il y a 750 millions d'années, un événement a bouleversé cette atmosphère. Probablement une activité volcanique qui aurait rejeté une énorme quantité de CO2 et provoqué un effet de serre. Néanmoins, les auteurs eux-mêmes admettent que l'on manque d'informations sur l'histoire de sa surface pour vérifier cette hypothèse.